Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ce 27 février 2026, cela fait un an que Goma est sous occupation de la FCM23. Entre séparation familiale, précarité et incertitude, Martial Papimoukeba nous amène vivre dans ce journal la situation de ces habitants de Goma qui vivent aujourd'hui loin de leur foyer. Pour eux, la paix traîne à arriver. Dans ce journal aussi, le renforcement des mesures de contrôle des documents des véhicules en cours à Kinshasa. Qu'en est-il de leur application et comment des usagers de la route réagissent à cela? Blaise Chinda nous le dira dans quelques instants. L'an 1 de la chute de Goma, nous en parlons aussi avec notre invitée, une commerçante de Goma. Dans un entretien avec Rosalie Zawadi, elle raconte comment le 27 janvier 2025 a brisé son activité et traumatisé sa famille. Madame, Monsieur, bonjour. Avant d'aller plus loin, sachez que le président Félix Antoine Tshisekedi est à Kananga au Kasaï Central pour une nouvelle étape de sa mission d'itinérance. D'après la présidence qui a communiqué sur son compte X, le chef de l'État a immédiatement inspecté les travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique de 230 km censé relier la province de l'Angola via le territoire de Luisa, une route de l'espoir qui prolonge le corridor de Lobito et doit créer un véritable réseau multimodal rail route avec l'ambition de revitaliser les zones rurales et d'offrir cette région longtemps isolée à de nouveaux échanges commerciaux. Ce mardi, Félix Tshisekedi procédera aussi à l'inauguration du nouveau campus moderne de l'université de Kananga. Je vous l'ai dit en titre, un an après l'occupation de Goma par l'AFC-M23, des milliers d'habitants vivent toujours loin de leur foyer. Certains se sont installés dans d'autres villes du pays, d'autres ont trouvé refuge à l'étranger. À Beni, devenu chef-lieu provisoire du Nord Kivu, ceux qui y ont été déplacés tentent de reconstruire leur quotidien, mais éloignés de leurs proches, ils demeurent confrontés à l'incertitude et à la douleur. Radio Kapi s'est intéressé à leur situation. Reportage Martial Papimoukeba.
Séparation familiale, précarité, incertitude. Le quotidien des déplacés est un combat permanent, comme l'explique cette femme, l'une d'entre eux.
J'habite dans une famille d'accueil, séparée de ma famille. Les enfants sont dans une autre ville, mon mari dans une autre ville. C'est une période très difficile. Les âmes doivent se taire, on doit retrouver nos enfants, on doit retrouver nos époux. On doit retrouver nos maisons. Nous devons retrouver nos projets que nous avons abandonnés à mi-chemin. Nous sommes des humains.
Et notre déplacé, fatigué par l'attente et les longues négociations, lance un appel urgent.
Leur discussion n'a que trop duré parce que plus le temps passe, plus nous vivons une précarité sans précédent. Le mieux serait qu'ils arrêtent d'abord la guerre et qu'ils trouvent des solutions le plus rapidement possible. D'aider à ceux qui ne savent plus vivre comme nous, qui ne savons plus vivre.
Pour ces habitants, chaque jour, loin de Goma, rappelle que la paix tarde à venir. Béni. Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
La session Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Stabilisation des DRS de la MONUSCO a procédé aujourd'hui mardi au rapatriement de 34 citoyens rwandais. Parmi eux figurent 15 ex-combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et 19 membres de leur famille. Il s'agit de la troisième vague de retour volontaire enregistrée depuis le début de cette année. Ils ont traversé dans la matinée la frontière de la Grande Barrière entre Goma, RDC et Gisenyi, Rwanda, avant d'être prise en charge par les autorités rwandaises pour la suite de leur processus de réinsertion sociale. Précision avec vous, Alain Irung.
Selon la section onusienne, cette nouvelle opération porte à 60 le nombre total d'ex-membres du mouvement FDLR rapatriés depuis janvier 2026, dont 33 ex-combattants et 27 membres de leur famille. La MONUSCO affirme constater depuis quelques mois un accroissement notable des redditions volontaires parmi les citoyens hutu-rwandais affiliés au FDLR dans les zones périphériques de Goma. Depuis l'année dernière, près de 300 d'entre eux ont été pris en charge, sécurisés, puis rapatriés sous la facilitation de la section DDR. RS. Rappelons que la neutralisation des FDLR demeure un axe central de l'accord de paix de Washington signé en 2025 entre la RDC et le Rwanda. Cet accord combine la sensibilisation au désarmement volontaire et des opérations militaires ciblées contre les groupes récalcitrants. La MONUSCO, en appui au gouvernement congolais, a renforcé ses actions de mobilisation non armée pour encourager les combattants FDLR à se rendre volontairement. Dans cette dynamique, la mission a ouvert depuis une semaine une station de radio à Munigi près de Goma. Celle-ci diffuse des messages ciblés de sensibilisation destinés à inciter les combattants et leurs familles à quitter les rangs rebelles et à s'engager dans un processus de retour volontaire.
Les activités autorisées à reprendre ce mardi sur le lac Tanganyika, un mois et demi après leur suspension consécutive à l'occupation de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23. La décision a été annoncée par le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Porossi, puis mise en application par l'administrateur du territoire de Fizi. Sami Kalonji-Badibanga indique que tous les échanges commerciaux par voie lacustre reprennent entre Uvira, Fizi, Kalemie ainsi qu'avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Elle explique dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Comme annoncé la fois passée de la fermeture de toutes les activités lacustres sur le lac Tanganyika, dans le but d'éviter et de prévenir l'infiltration des éléments M23 vers le sud du territoire de Fizi en direction de la province voisine de Kalemie. Aujourd'hui, mardi 27 janvier, je déclare ouvertes toutes les activités commerciales lacustres sur le lac Tanganyika. Ces mesures sont prises par l'autorité provinciale afin de soulager toute cette population qui a trop souffert et surtout les commerçants qui ont été privés de toutes les activités suite à l'occupation de la ville d'Uvira. Tous ces trafics lacustres, échanges commerciaux sont désormais autorisés. Les bateaux, les bottes, les navettes à naviguer sur le lac Tanganyika, de Kalemie vers Uvira, d'Uvira vers Kalemie, de Fizi vers Kalemie, de Fizi vers la Zambie, vers la Tanzanie, vers le Burundi, sans aucune difficulté.
Et dans la province du Tanganyika, la tension reste vive. Ce mardi, au village Buganalwamba et Yenga, situé dans la chefferie de Benamambwe, territoire de Kongolo, c'est après une violente bagarre ayant opposé les habitants de ces deux localités dimanche. Selon des sources locales, le bilan fait état d'un mort et d'une trentaine de maisons incendiées, mais les causes de cet incident ne sont pas encore connues. L'administrateur du territoire de Kongolo confirme ces informations. Gongomboka Amiba assure que des efforts sont en cours pour rétablir le calme dans ces villages. On l'écoute dans ces extraits choisis par Paula Munanga.
Nous venons de recevoir un message en provenance du secrétaire de la chefferie de Benamambwe faisant l'intérim du chef de chefferie qui se trouve même à présent dans sa juridiction où il y a une vive tension qui oppose les habitants des villages Yenga et village Buganalwamba. C'est vrai, il y a des sources de ces conflits-là, que c'est à travers l'avènement que nous sommes tous saisis. Cette bagarre qui vient déjà de causer un dégât, une perte en vies humaines, Mbumbi, Kilima, quelques maisons incendiées, là c'est dans le village Buganalwamba. Comme nos éléments, c'est-à-dire les membres du conseil de sécurité local de la chefferie de Benamambwe se trouvent déjà là. Ils sont en train de tout faire pour mener la calmie afin qu'on puisse voir comment les dossiers peuvent se poursuivre. La suite, on l'aura. Nous n'avons pas toutes les précisions par rapport à la source des conflits.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa renforce les mesures de contrôle des documents des véhicules sur les principales artères de la capitale. Quelles sont ces nouvelles dispositions? Comment seront-elles appliquées? Et comment les usagers de la route les accueillent? Élément de réponse dans ce reportage signé Blaise Shindani Kambala.
Dans une vidéo publiée hier lundi, Daniel Bumba annonce qu'il y aura 3 shifts par jour. Ceux qui sortent dès 5h30, la deuxième équipe prend la relève à 12h et la troisième équipe commence à 17h et jusqu'à minuit. Suivez Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa.
Cette mission sera shiftée en 3 phases. Dès 5h30, vous êtes déjà au carrefour où vous êtes commis. À 12h juste, la première équipe quitte et la deuxième commence. À 17h, la troisième équipe commence et c'est jusqu'à minuit. Sachez que les équipes techniques travaillent de telle manière que ça ne pèse pas sur vous. Il y aura des permutations ainsi que des changements.
En réaction, certains Kinois pensent que ces nouvelles dispositions vont perturber la mobilité des usagers de la route.
Le travail en RDC se termine à 17h. Mais prolonger le contrôle jusque vers 23h, pourquoi? Que voulez-vous à la fin? Le mal en est que notre génération, depuis notre naissance jusqu'à ce jour, on n'a payé aucune taxe. Alors si on veut normaliser la chose aujourd'hui, nous crions au scandale alors qu'un pays doit avoir des lois et règlements.
Pour éviter les tracasseries, plusieurs propriétaires des véhicules ont décidé carrément de garer leurs véhicules.
La Société nationale d'électricité SNEL, direction provinciale du Crestail oriental, a lancé dimanche dernier une opération de déterrement d'une centaine de poteaux électriques implantés au milieu de la chaussée de l'avenue Inga à Mbushimai. Ce tronçon de la route nationale numéro 1 est actuellement en pleine modernisation. L'objectif est de faciliter l'élargissement de la route afin d'obtenir deux bandes dans chaque sens de circulation. Explication avec Christian Delafina.
Selon le directeur provincial de la SNEL, Jean-Crispin Mukendi, 14 poteaux métalliques ont déjà été retirés de la route lors de cette première phase entre le rond-point Kalalawankata et le siège provincial de la société de téléphonie Orange. Pour mener à bien ces travaux, des engins ont été mobilisés auprès d'autres entreprises engagées dans la modernisation des routes de la ville. Le responsable de la SNEL précise que des poteaux déterrés seront réutilisés. Toutefois, avant d'entamer la deuxième phase, les trous laissés par ces infrastructures devront être remblayés par l'entreprise chinoise Grexset, chargée de moderniser l'avenue Inga afin d'éviter tout risque d'accident.
Nous avons laissé d'abord Grexset compacter les 14 trous, d'abord déterrer les poteaux. Dès qu'ils terminent à compacter, on rend propre la première partie et nous entamons la deuxième partie, les poteaux béton.
Signalons qu'un accord financier a par ailleurs été conclu entre la SNEL et l'Agence congolaise des grands travaux ACGT pour le déterrement et le déplacement d'une centaine de poteaux électriques qui ont été replacés après le canal. Cette opération marque une étape importante dans l'accélération des travaux de modernisation de l'avenue Inga, axe stratégique de la RN1. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Une bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre de Mbanzangongo dans le Congo central. Après plusieurs années de déclin, notamment en raison des difficultés d'approvisionnement en semences durant la période de la COVID-19, la filière s'apprête à reprendre vie. Un partenariat stratégique a été conclu hier lundi entre Frico Agri SARL et la coopérative Viva Congo. Selon les deux parties, cet accord qui dépasse le seul cadre agricole pourrait devenir un véritable levier de développement économique pour la province. À l'échelle nationale, ils estiment que cette relance contribuerait à réduire les importations, renforcer la sécurité alimentaire et accroître la valeur ajoutée locale, tout en soutenant la diversification de l'économie congolaise. Nana Plurichmambo nous en dit plus.
Le projet prévoit l'utilisation des semences certifiées, un encadrement technique renforcé et des technologies issues d'une expertise néerlandaise. L'objectif est d'améliorer la productivité, de réduire les pertes post-récolte et d'assurer une présence régulière de la pomme de terre sur les marchés. Une phase pilote débutera en 2026 sur 10 hectares. Les ambitions sont claires. Augmenter les rendements, stabiliser les revenus des producteurs, créer des emplois ruraux et dynamiser les secteurs connexes tels que les transports, les stockages et les commerces. La filière pomme de terre s'est effondrée en Mbanzangongo à partir de 2015. Le déclin s'est aggravé avec l'arrêt des importations de semences pendant la pandémie de COVID-19. Les producteurs avaient tenté d'utiliser les semences provenant de l'est du pays, mais ces essais n'ont pas abouti en raison des conditions climatiques inadaptées. Cette situation a entraîné une raréfaction de l'offre sur les marchés, une dépendance accrue aux importations et une baisse significative des revenus des agriculteurs, alors que la pomme de terre constitue une culture de rente dans la région. Les nouveaux partenariats visent à restructurer l'ensemble de la chaîne des valeurs, de la production des semences à la commercialisation, avec en perspective une transformation industrielle créatrice des richesses. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Nations Unies ont annoncé le lancement d'un plan d'aide humanitaire de 852 millions de dollars pour la Somalie. En conférence de presse hier lundi, le porte-parole de l'institution, Stéphane Dujarric, a indiqué qu'il s'agit de venir en aide à 2,4 millions de personnes. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, se joint à ceux qui appellent au boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis. Il a soutenu hier une proposition de boycott des matchs de la Coupe du Monde aux États-Unis par les supporters. Cela en raison du comportement du président Donald Trump et de son administration au niveau national et international. Les États-Unis co-organisent la Coupe du Monde avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.
L'invité.
Un an après la chute de Goma aux mains de l'AFC M23, les blessures laissées au sein de la population restent profondes. À cette occasion, nous donnons la parole à une commerçante de la ville, victime de pillage et marquée par la violence des combats. Elle raconte comment le 27 janvier 2025 a brisé son activité et traumatisé sa famille. Elle répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Comment dans votre famille vous avez vécu le lundi 27 janvier 2025?
Une journée et avec beaucoup de coups de balle. On ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé exactement parce qu'il n'y avait pas moyen de communiquer. Il n'y avait pas aussi de courant. Quand une journée se passe comme ça, on veut avoir la vraie information. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait pas. Donc ça crée une peur, ça crée des doutes. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Donc c'était une journée vraiment sombre.
Votre plus jeune enfant à quel âge?
Mon plus jeune enfant a 5 ans.
Donc l'année passée, l'enfant avait 4 ans. Comment vous aviez passé la journée? On avait mangé à midi?
À la base, le matin, c'était presque normal. Et c'est vers 10 heures que tout a basculé vers chez nous. C'était vraiment un chaos total. Vous imaginez avoir des enfants, parce que le plus jeune avait 4 ans et son frère aîné avait 6 ans. Donc c'était compliqué, des garçons à cet âge-là, ça part dans tous les sens. Mais avec les coups de balles, avec des bombes par-ci par-là, les enfants étaient traumatisés. C'était vers maintenant 11 heures quand le combat s'est intensifié dans notre quartier. Les enfants ont dormi de 11 heures jusqu'à 17 heures. Donc ils étaient vraiment traumatisés. On a quitté la chambre, on est entré dans des couloirs, on est resté là-bas. Jusqu'à 17 heures, vous imaginez, il n'y a pas moyen de préparer la nourriture. Parce que d'abord, le courant n'était pas là. On va utiliser la braise comment? Écouter des coups de balle et allumer encore la braise pour préparer qui va manger? Personne. Donc, vous sentez que c'était vraiment une journée très compliquée.
Comment avez-vous passé la nuit dans la famille?
Bon, la nuit, il y avait des tirs sporadiques, mais la peur au ventre. Qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Est-ce que les gens vont entrer dans les maisons? Qu'est-ce qu'on va faire? Et de ce quoi? Parce qu'il n'y avait pas des informations. On ne pouvait pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, alors, on dormait avec la peur au ventre. Même les faits, quand il y a le ventre, il te dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient venir? Donc, on était traumatisés. Il y a d'ailleurs mon mari qui a fait les crises de tension. Parce que lui, il écoutait seulement la guerre, oui, mais il n'avait jamais vécu ça avec nous à la maison. Maintenant, il était vraiment démoralisé parce qu'il se disait avec les enfants, on va faire comment?
Une année après, quand vous y repensez, c'est toujours très lourd pour vous ou bien c'est comment?
Oui, quand j'y pense, une année, moi je trouve que c'est comme si c'était hier. Parce que tellement nous avons vécu des choses traumatisantes, je n'aimerais pas encore revivre ça. Si aujourd'hui on disait que encore il y a des rumeurs que non, il peut y avoir une guerre et tout, en tout cas moi je ne peux pas encore rester et voir mes enfants traumatisés à ce point parce que même eux jusqu'aujourd'hui, les enfants en parlent. Donc si cette guerre-là était à refaire, en tout cas moi je ne pourrais pas entendre encore les coups de balles ou rester encore ici sur place, non. En tout cas, vaut mieux se déplacer maintenant, se déplacer pour aller au, mais au moins ne pas encore y revivre ça. Parce que non seulement on a vécu la guerre, et la journée du 28, j'avais tout perdu. J'ai été pillée, j'étais commerçante, donc là, j'ai tout perdu. On va recommencer comment? Et puis avec la guerre, il n'y a pas de banque, donc on est resté seulement comme ça, et on s'est dit que... En tout cas, la guerre, ce n'est pas bon.
Et qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui sont impliqués dans la recherche de la paix, dans tout ce qu'on vit ici?
Qu'ils ne nous abandonnent pas et que plus jamais la guerre, plus jamais des coups de balle, plus jamais des morts innocentes, plus jamais des pillages et des pertes en vies humaines et matérielles, plus jamais ça. Qu'ils pensent à la population civile, nous sommes des innocents, que tous les belligérants, qu'ils trouvent intérêt d'entente. C'est pour le bien de la population. Vous ne pouvez pas diriger une population morte, une population traumatisée. Il y a des enfants, les familles ont été séparées. Donc on n'aimerait pas que ces choses recommencent encore.
Madame, vous vivez à Goma, merci.
Merci.
Plus jamais de guerre, de mort innocente, cri de notre invité, maire également commerçante dans la ville de Goma. Merci à vous qui venez de suivre cette édition du journal préparée par Alain Hirong, mise en onde par Jean-Claude Siala, avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.